Bon, on va enchaîner. Merci beaucoup aux deux orateurs. Merci de la présence. Alors maintenant, on va faire sur un. Alors, ça va être quand même deux orateurs qui vont succéder. Alors, premièrement, sur cette table ronde, il y a une intervenante, Mme Sutter, qui est un problème de santé qui fait qu'elle ne peut pas nous rejoindre. Donc, en fait, il n'y aura que deux intervenants que je vais appeler. Pas de cascade. Donc, Camille Niard et Liam Hennessy, venez. Vous allez vous installer là. Vous allez parler l'un et l'autre successivement. Je pense que vous avez des PowerPoint. Just you will sit there. Vous voulez parler de là ou de là-bas? Comme vous voulez. Oui. Donc, allez-y. Le machin est là-bas. Donc le thème de cette table ronde, c'est démocratie, citoyenneté et revendication des usagers quand le savoir expérientiel des patients fait irruption dans la santé mentale. Un sujet important et tout à fait actuel. Donc Camille Niard est médiatrice de santé Père à Lyon et je lui cède la parole.
Bonjour. Alors déjà, je remercie le congrès d'ADES de m'avoir proposé cette intervention. Et qui donc, le thème, c'est donc, comme vous l'avez dit, c'est quand le savoir expérientiel fait irruption en santé mentale, le savoir expérientiel des patients. Alors, avant de parler de ce que je vais vous parler, ce que j'ai développé justement à partir de mon savoir expérientiel, j'ai découvert, enfin, il y a peu de temps, l'origine du mot fou. Je voulais vous la faire partager parce que j'ai trouvé sympa et justement ça me parlait. C'est un ballon rempli d'air qui suit une trajectoire non définie. Donc ça appelle beaucoup finalement à la créativité, à l'autonomie, même si voilà, c'est une certaine autonomie d'avoir une trajectoire non définie. Il n'y a pas de cadre, mais il y a aussi, dans le champ de la santé mentale, la souffrance. Et notamment, cette idée d'observatoire du rétablissement m'est venue, je vais développer pour comment et où, en souvenir de ma première hospitalisation qui était dans l'an 2000. Donc j'avais 17 ans, et il y avait souvenir d'un manque de considération de ma personne, et plutôt orienté vraiment sur mes symptômes. Voilà, j'étais pas vraiment considérée comme une personne, mais un tas de symptômes flagrants. Et d'où cet observatoire du rétablissement qui m'est venu pour essayer de parler de ma place, de faire évoluer les pratiques, faire des pratiques orientées et rétablissement, mais dès le début, à s'adresser à toutes sortes d'équipes, à tous les niveaux, pour les inciter dans une démarche volontaire à les encourager à changer, à regarder vraiment les personnes auxquelles elles s'adressent comme des personnes et pas comme un tas de symptômes. Donc voilà, donc je suis effectivement médiatrice de santé pair et je suis rattachée au centre ressources de réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive à Lyon, qui a la particularité d'être une structure non soignante, unique en France, qui a différentes missions. C'est coordonner des actions, des projets, informer, donc beaucoup de communication, former, via des DU notamment, et faire de la recherche. Donc voilà le cadre dans lequel moi, mon savoir expérientiel fait irruption dans la santé mentale. Donc c'est un peu particulier même dans ma fonction de médiateur santé-pair, parce qu'il y a peu de médiateurs santé-pair qui ont cette chance d'être dans une structure non soignante qui ont ces vocations-là. Par ailleurs, je suis détachée sur les soins, une certaine partie de mon temps, sur le centre référent en réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive. où là, je fais de la paire aidance, soit par des entretiens pair à pair, des entretiens individuels, soit en participant, en co-animant des groupes de psychoéducation, voire en en construisant. Et donc, dans ce centre, mes objectifs, mes axes de travail, c'est effectivement, plus classique pour le médiateur santé pair aidant, nourrir l'espoir, renforcer l'estime de soi, lutter contre la stigmatisation et apprendre à se déstigmatiser, lutter contre cette fameuse auto-stigmatisation. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus ce qui m'attache au CRR. C'est un projet qui j'ai la chance de pouvoir développer, qui est né dans un séminaire qui s'appelait CRISH en décembre 2017, dans lequel j'ai participé, qui était justement l'élaboration de projets innovants en santé mentale, réfléchir pendant 2 jours pour monter des projets innovants en santé mentale. Et dans mon groupe de travail, dans le séminaire, j'étais avec un infirmier chercheur, Baptiste Goldus, qui travaille aussi au Centre de réhabilitation psychosociale, et Nathan Lemonnier, qui était biostatisticien. Et l'idée m'est venue, justement, comme je vous ai dit, par rapport à mon expérience, mon savoir expérientiel de l'hôpital, du CMP, des soins, j'avais envie que ça aille plus vite. J'avais envie qu'il y avait des pratiques qui existaient aujourd'hui, qui soient plus répandues, et comment faire pour améliorer cette relation entre le soignant, le médecin et le patient. Comment prendre mieux en compte les attentes des usagers et aussi les objectifs, respecter les objectifs de l'autorité de santé par rapport à, voilà, aux pratiques qui existent. Donc voilà, c'était le départ et ça a donné cet observatoire du rétablissement qui est porté par le CRR, parce que quand j'en ai parlé au professeur Nicolas Franck, il m'a dit « bon, bah, on y va », parce qu'il est dans un esprit créatif et d'autonomie, donc il m'a laissé voilà, porter ça, développer ça, avec Sophie Cervelot, qui est une psychiatre chef de clinique du service. Et donc, ça a vraiment été une co-construction. À partir d'une idée, voilà, on a co-construit quelque chose. Et donc, les objectifs de cet observatoire, c'est donc aider les structures sanitaires dans un premier temps, et pourquoi pas médico-sociales dans un second temps, à évoluer vers des pratiques orientées rétablissement et à élaborer un guide de bonnes pratiques. Et comment on fait ? C'est là, c'est un peu la particularité de cette démarche. Ce sont des auto-évaluations de structures volontaires qui ont envie de changer, mais qui ne savent pas vraiment comment. Qui sont un peu démunis, et des hétéro-évaluations par leurs usagers et par les proches de ces usagers, donc pas par des associations. Les associations telles une femme nous soutiennent et son partenaire, mais c'est vraiment les proches, les personnes concernées qui vont hétéro-évaluer la structure d'accueil. Et après cette auto-évaluation, cette hétéro-évaluation, il y a un temps de sensibilisation où on présente les résultats de l'évaluation et où c'est un moment d'échange où idéalement il devrait y avoir usagers, l'équipe évaluée et les proches. Et cette sensibilisation se passe sur les lieux évalués, ce qui est important. Parce que c'est ce qui est l'idée aussi, et c'est les mots de Baptiste Goldus, c'est... que ce qui se passe un peu en entre-soi, dans les congrès, aille aux équipes, aille aux infirmiers, aille aux personnes qui sont vraiment sur le terrain, pour porter, un peu démocratiser ces approches et ces réflexions, et qu'elles s'en emparent. Donc voici... c'est avant. Ah, c'est moi qui... Ouais, pardon. Voilà, moi j'en étais là. ce qui est schématiquement l'idée de l'Observatoire du rétablissement, qui avait été fait par le beau schéma, c'était justement le biostatisticien Luc Riche qui nous avait aidé à vraiment faire ça un peu schématiquement bien. Donc améliorer la relation soignant, médecin et patient en diminuant le gap entre les pratiques, l'état de l'art et les attentes patients, qui peuvent être toutes les trois très différentes. Et pour cela, se renseigner auprès des personnes concernées, auprès des soignants et auprès des proches. Se servir donc de l'équipe CRR où il y a des statisticiens, où il y a des moyens pour recueillir ces données, soutenir le projet d'évaluation. Et en plus, c'est une structure indépendante des services de soins, donc c'est plus intéressant, c'est plus pertinent. Et donc l'idée, ce serait d'améliorer à terme la qualité des soins. Pour ces questionnaires, il y a un questionnaire qui existe, dont on s'est servi, que Sophie Cervelo a amené sur la table quand je lui ai parlé de ce projet. C'est une échelle d'auto-évaluation du rétablissement qui a été développée au Canada et qui a été francisée d'abord par le Québec, et dont on s'est approprié les items et on a refrancisé en francophone, franco-français. Il y avait des termes qui n'étaient pas vraiment adaptés et même des items qui étaient vraiment de la culture nord-américaine qui n'étaient pas forcément à la culture française. Et donc, ces 36 items qui sont vraiment des questions pratico-pratiques de justement des pratiques axées sur le rétablissement dans les services. On les a fait passer donc en auto-évaluation et en hétéro-évaluation. Donc il y a 4 versions du RSA. Donc une version pour les familles, une version pour les personnes concernées, pour les professionnels et pour les directeurs d'administration. Nous, à notre échelle d'expérimentation, on en a proposé 3, personnes en rétablissement, famille et professionnels. Ce qu'on s'attache dans notre projet, c'est vraiment les ajustements, aller sur les équipes, dans chaque équipe de soins, et donc faire vraiment du terrain. Les études, il y a des études internationales qui ont montré que ce RSA contribue de manière significative à l'émergence de principes et de guidelines pour les pratiques axées sur le rétablissement. Je vais vous présenter quelques résultats. Donc, à l'international, donc au Canada, là où elle a déjà été bien utilisée, cette échelle avait permis notamment de montrer que, justement, donc, les chefs de service et les administratifs avaient une opinion plus positive de ce qui se passait dans les services en soi, parce que les cliniciens de première ligne, ils étaient moins positifs sur ce qui se passe, sur l'orientation rétablissement de leur service. Et qu'une orientation vers le rétablissement des services favorisait le rétablissement personnel. Donc voilà la première donnée. Et quand cette échelle a été proposée aux infirmiers des services en psychiatrie, ça a été pertinent pour mesurer justement l'orientation vers le rétablissement de ces pratiques. Et les scores élevés étaient corrélés à justement au fait que les infirmiers étaient formés au principe du rétablissement et qu'ils se considéraient eux-mêmes comme informés et compétents à propos du rétablissement, ils savaient de quoi ils parlaient, et que l'environnement de travail était orienté vers le rétablissement. Donc ça, en soi, c'était assez intéressant. Donc ce RSA, il a donc 36 questions qui sont, et ces 36 questions sont cotées par 5 thématiques. Il y a les objectifs de vie, l'engagement citoyen, etc. Les diversités des options thérapeutiques, les choix et les services adaptés aux besoins individuels. Et donc ces questions sont mélangées, il n'y a pas 5 premières questions sur un item, puis c'est donc après, il y a un système de notation qui permet de regrouper et d'analyser les données. Donc du coup, au CRR, on a développé une méthode d'évaluation en se servant du RSA en 5 étapes. D'abord, une réunion de sensibilisation pour engager les services à s'auto-évaluer et pour proposer aux usagers et proches d'évaluer la structure. Puis un temps d'évaluation qui a été de 2-3 mois, le temps de faire circuler les questionnaires dans le personnel soignant, chez les usagers et chez les proches. Et donc, c'était soit par Internet, soit par format papier, pour essayer de toucher un maximum de monde. Les données, après, sont analysées par le CRR et valorisées. On exploite les résultats et on restitue et propose et travaille ensemble sur des pistes d'amélioration. C'est là que la sensibilisation opère, parce que le service est curieux de savoir où il en est, à combien il va être noté, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'enjeu, puisque c'est volontaire, il n'y a pas de certificat, il n'y a pas d'agrément, enfin voilà, c'est vraiment volontaire, mais c'est un peu la carotte pour aller dans le service, pour ensuite parler rétablissement et sensibiliser vraiment l'équipe et idéalement, comme je dis, les usagers et les proches aux pratiques qui pourraient bouger. Puis, l'idée, ce serait de réévaluer après un an de mise en place ces nouvelles pratiques avec les mêmes modalités pour voir l'évolution. Donc, voilà. Hop. Donc, on a eu une zone pilote qui s'est portée volontaire pour expérimenter cet observatoire à Lyon. Voici l'état d'expérimentation. Le 1er mars, il y a eu le 2018, il y a eu la réunion de démarrage avec l'équipe pour expliquer les enjeux, comment s'organiser pour faire passer les questionnaires, etc. Les questionnaires ont été diffusés entre avril et juin 2018 aux équipes, aux usagers du service qui a bien voulu être audité. Alors, voilà les résultats. Il y a eu 26 réponses des professionnels, 100 réponses des usagers. Alors, les usagers, on avait, pour essayer de les atteindre, ils avaient posé des questionnaires dans les salles d'attente, profitaient aussi des groupes pour faire diffuser les questionnaires. Voilà, ils ont essayé de faire quelque chose comme ça pour toucher le plus d'usagers possible. Et c'est là, il y a eu 100 réponses des usagers, donc le plus de réponses. Et les proches, par contre, ça a été compliqué de les atteindre parce que, justement, on était en partenariat avec l'UNAFAM et l'UNAFAM n'était pas encore vraiment implantée dans ce service. Et l'idée, ça aurait été de jouer sur les permanences de l'UNAFAM pour parler aux proches directement et de proposer le questionnaire dans les permanences UNAFAM. Mais ce service ne disposait pas encore de permanences UNAFAM, donc ça a été un peu compliqué de les toucher. Donc, il n'y a eu que 2 réponses des proches. Pendant l'été, le CRR a analysé les résultats. Puis, on a restitué en octobre les résultats et on a profité donc pour faire cette fameuse sensibilisation aux pratiques orientées rétablissement devant l'équipe et devant l'UNAFAM, notre partenaire. Alors, voilà aussi, sur ce graphe, il y avait, pour ceux qui le souhaitaient, ils pouvaient signifier leur profession pour les professionnels qui répondaient. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu mettre leur profession. Mais on voit quand même qu'il y a une majorité d'infirmiers qui ont répondu et de médecins. Aussi, voilà, c'était une équipe où il y avait beaucoup d'infirmiers et de médecins. Donc, voici les résultats pour cette équipe qu'on leur a présentée. Donc, là où le bas blesse, c'était au niveau des engagements, surtout, l'engagement des usagers, et sur la diversité des options thérapeutiques, la note maximale, c'est 4-5, donc c'est 5, c'est en haut, ça ne monte pas jusque-là. Et donc là, la note minimale, c'est 0. Et donc, les notes les plus faibles étaient sur l'engagement et la diversité des options thérapeutiques. Et comme vous voyez, les professionnels, en tout cas dans ce service, étaient plus sévères que les usagers. Alors, ayant dépouillé personnellement les réponses, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. En fait, mais ça donne ce résultat. Les professionnels étaient plus pondérés, ils répondaient, voilà. Plus, c'était des échelles un peu entre 1 et 5 de satisfaction sur différents items. Ils répondaient plus 2-3, alors que les usagers, c'était soit c'est super 5, soit c'est nul 1. Donc, d'où le, voilà, l'écart et le fait que ça a été un peu biaisé. Mais en tout cas, ça va dans le même sens. Comme vous voyez, tous les résultats vont un peu dans le même sens. Qu'on soit usager ou professionnel. Alors, voici un exemple Oui, il reste pas beaucoup de temps.
Oui.
D'accord, je me dépêche. Merci. J'essaye de parler plus vite. Donc, les objectifs, je vais vous passer rapidement, voilà, pour un exemple. Donc, assistent pas assez les usagers pour obtenir du travail. Ne présentent pas de mentor, de modèle. Il n'y a pas de père aidant. Et les usagers du service ne peuvent pas changer de médecin de référent de parcours s'ils le veulent. Donc ça a été une grande question pendant la réunion de sensibilisation. Je passe l'autre. Donc justement, cette réunion de sensibilisation, j'en ai déjà parlé. Donc ça a été vraiment le temps fort de cette démarche. C'est là où il y a eu vraiment une réflexion par rapport aux pratiques et à la posture. Et ça a été animé donc par Sophie Cervelo, psychiatre, et moi-même. Et ce duo, rien que ça, illustrait les pratiques orientées et rétablissement et avait un impact, voilà, où on a proposé des pistes et des outils. Le problème dans cette réunion, c'est qu'il n'y avait pas d'usagers, donc c'était voilà, le progrès à faire. Donc, voilà, donc, comme je vous ai dit, l'observatoire du rétablissement, c'est un outil qui va au-delà de l'évaluation, mais ça part de ça, pour permettre un état de lieu et une prise en compte de la parole des usagers. Et cette restitution, c'est pour le rétablissement des équipes une étape clé. Elles étaient vraiment enthousiastes à la fin de la demi-journée de sensibilisation par la rencontre. Et en tant que médiateur de santé pair, voilà, c'est un vecteur qui encourage à changer parce que les professionnels, ils veulent quand même le bien des usagers, donc ça leur parle. Voilà, merci.
Merci beaucoup. C'est maintenant Liam Hennessy qui va nous évoquer. Donc, il vient d'Irlande, service de santé mentale, et qu'il va nous donner des expériences extérieures. Mettez vos casques si nécessaire.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Hennessy. Je vais commencer en irlandais. Après cela, je parle en français pour quelques moments et dernièrement, je parle en anglais. Is privilège mor domsa va an sho ag an crinu tavok tuk sho I Marseille. C'est un grand honneur pour moi être ici à Marseille pour la conférence très importante. Important à cette tour. I just what I said in Irish, and you hopefully have picked up on my bad French. It's a great privilege, actually, for me to be here in Marseille at this very important conference, very comprehensive conference. I want to begin by just talking a little bit about myself, just as Camille did. I first found myself in a psychiatric hospital when I was 18, and that's a very, very long time ago because I'm now 64. I still remain with the Irish Mental Health Services, but I like to think that I have recovered and I manage my mental health challenges well. I want to give a little bit of background and context to what I'm going to say about mental health engagement in Ireland. And just by way of... What I was going to talk about. No. Back one. No.
Backwards. Yeah. C'est bon.
I was going to briefly talk about the background and context of the work I do and what its implications are for the Irish mental health services, with a particular focus on peer support, but more importantly, I want to talk about the whole process of mental health engagement in Ireland, which is basically about bringing the views and experiences of people with mental health challenges to the table in deciding mental health policy, mental health design, and mental health services provision. There are a number of documents that are relevant to this latter development, and I've mentioned them there in the slide. In 2006, significantly in the context of this conference, there was a national mental health policy published called A Vision for Change. There are some relevant other relevant policies, which I'll talk about in just a moment. But A Vision for Change was really about taking a transformational view to the Irish mental health services. And its very first recommendation, and I think this is a key point to make here, was that service users and their families and key supporters should be at the heart of the design, delivery and the evaluation of Irish mental health services. So that's a key principle, the first principle enunciated in that national policy in 2006. I should say that that national policy has now run out of term. It finished in 2016, and there's a new policy being put together by an expert policy-making group, and I sit as a service user member of that group. There's also another service user member on the group, and there's the chair is actually a family member of a child who has severe psychosis. In 2014, the Irish Mental Health Services conducted what they called the listening meetings right across the country, at which over 1,000 people attended, and they gave their views on what were the issues with the Irish Mental Health Services and how those issues might be improved. And I'll talk about that in just a moment as well. And finally, and perhaps most importantly for my role here, there was a document produced in 2016 by a group of service users and family members, specifically put together by our health service executive to come up with recommendations about how service users and family members could influence the direction of mental health policy and practice in Ireland. I'm only going to very briefly comment on that slide, which is about peer support working, and I'll draw your attention to the image on your right, I think, which looks at the outcomes of the peer support program we have instituted in Ireland. We now have 26 peer support workers in five of our community healthcare organisations across the country. There's a supervision process in place for them. At present, they're supervised by social workers, but as the, dare I call it, the profession of peer support working develops in Ireland, I suspect the supervision will be from peer support workers themselves. We know that as a result of peer support working in Ireland, multidisciplinary teams have better engagement, actually, with the service users they're caring for. And I think it's important, in the light of what Camille was just saying, that there are better recovery outcomes as a result of peer support working. And finally, at this point, because it's a relatively new development, the information is only anecdotal, but just service users' experience of having a peer support worker has been good for both parties. I spoke about the kind of national policies that influence the development of mental health engagement in Ireland. I mentioned the Vision for Change, and you can see the document there on the slide.
There.
I also mentioned that Vision for Change is now being reviewed and renewed, and to inform that review, we had an examination of just how much of Vision for Change had been put into practice. And we now have a national healthcare system report which proposes major changes in the Irish healthcare system over the next 10 years. And quite unusually in our Parliament, that has cross-party universal support. For those of you who are not familiar with Irish, sláinte is the Irish word for health. I suppose of most immediate relevance to the work I and my colleagues do are these two reports, the report on the listening meetings and the report called Partnership for Change, which, as I said earlier on in my intervention, was put together by a group of service users and family members, setting out what they believed should be the national system for engaging with service users and their families in the design, delivery and evaluation of our mental health services. So as the listening meetings took place in 2014, I'll talk about them very briefly. You can see the 10 themes that emerged, and I've highlighted in red the ones I regard as most relevant for this presentation. You can see there that their service user, family member and carer engagement and peer support, and you can maybe observe the others at your leisure. Perhaps challenging societal attitude is one. We spoke about stigma on a number of occasions here today, and that's what that is about. And I suppose this is the meat of my presentation, the recommendations of the reference group, Partnership for Change. And you'll see they made five critical recommendations. One was the job I have, the role and function of the head of mental health engagement as a member of the National Mental Health Management Team. I sit on the senior management team for the health, mental health services in Ireland. And I sit there for two reasons. First of all, because I've lived experience of mental health challenges. And secondly, I've lifelong experience of management and other professions. Now, I think it's important to point out that the key recommendation as regards that post was that the holder of the post would either be a service user or a family member of a service user. Now, that was a necessary condition, but it wasn't a sufficient condition, because when people sit around at top-level tables like that, you need other skills besides just those of having the lived experience of mental health challenges. Across the country, there are 9 equivalents of myself. I mentioned our community healthcare organisations. And as you can see, there's the equivalent of myself in each of those 9 areas. In a sense, they kind of report to me. And they too, the basic requirement was that they be either a service user or a family member of a service user. And they too sit on the area management teams as full and equal members. I suppose the most important feature of their recommendations was actually getting to the nitty-gritty of what it's all about, setting up structures across the country which would enable service users and their supporters to have an influence on the development of mental health services, both nationally and, what's most important to service users and their families, their local mental health services. One of the recommendations, and we've had training programs to implement or to ensure that the recommendation was carried through, was that there be capacity building or training for likely participants in these structures that we were setting up across the country. And finally, I have a small support team at the National Centre called the Office of Mental Health Engagement, and that was the fifth and final recommendation of that group. And curiously, I don't know if it's the experience here in France, I suspect it is. Many reports are put together, well-meaning, people are very convinced of the value of them, and they end up gathering dust on shelves. But my employers, the Irish Health Service Executive, adopted every one of the recommendations in that report. There's a kind of a graphic which sets out the structures, and you'll see that the most important structure there is the local forum. That is, in local mental health services, there's a local forum of service users and their families to which service providers are invited. And those local forums make their views known based on their experiences on the local services, how they're delivered, what the service has meant to them, and how they could be improved. And critically, and I think this is the most important point of all, these local forums are not about consultation. They're not about, oh, could we have your ideas, or could you tell us what you think? That's part of it, certainly. But the real essence of it all is that the local services have to respond. There has to be a two-way dialogue. So what might we want to achieve with all of this? Well, as you can see there from the slide, what we want to achieve is better recovery and well-being focused mental health services to the benefit of all stakeholders. And I think it's important to highlight the all, because sometimes in this debate there's a feeling that service providers are cut out of the debate. It's about the empowerment of service users, their families and carers. And it's about, and this relates to the point about bringing service providers and even the wider community into the picture, it's about partnership, co-production and trialogue. And if I could emphasise one thing about it, it's about partnership. And how will we know what we've achieved, or if we achieve anything? We'll measure the outcomes, because it's important to measure outcomes. And this can be done, as you know, on a quantitative and qualitative basis. And I think the qualitative basis will be the most important one, because it will be about people's stories, and we all respond to stories. We respond to stories much better than we respond to statistics. We'll know we've succeeded if mental health policy is changed nationally as a result of this dialogue through these forums that I mentioned. And finally, and again, from the patient's perspective or the family member's perspective, we'll know we've succeeded if services are improved locally. So in all of this work, we felt we had to have some basic principles, and really it's about courteous behaviour, I suppose, in these fora. Respect always for each other's views and positions, courteous dealing, small changes, improvements are worthwhile. We make our decisions by compromise and consensus. I mentioned partnership, co-production and trialogue. And finally, and most importantly, we care for each other. And so you might very well think, well, this is all just setting up the structures. What might be the outcomes? And just some of the themes that have emerged from local forums are along the following lines. As regards service users' experiences, actually how to access the service. Our services, and one of the other speakers mentioned earlier on, how confusing the services can be and the different referral pathways, and how once you get into the service, you're referred here and there and over there. Families, and I have a particular interest in the experience of families in the mental health services, because maybe they don't always get the acknowledgement that they should. And families are telling us that they're not listened to by professionals, which is kind of strange when you think that the service user is likely to be spending a lot more time with his or her family, particularly if they're being treated in the community, than they are with mental health professionals. This was mentioned earlier on today. It's difficult to change a consultant in the Irish system, your doctor. It's hard to change. It's almost impossible. In the clinical care area, people felt there wasn't sufficient follow-up once they were discharged into the community services. Physical environment was one, and I don't know whether this would be the case in France. I suspect it is in rural parts of France, where persons with mental health difficulties felt isolated and cut off, and telepsychiatry and e-mental health was mentioned earlier, and I suspect that might be one way of addressing that particular challenge. And the last one you won't be surprised to see at all, apropos medication, very many of our local forum members are saying that there's an over-reliance on medication in our mental health services and not sufficient use of talking therapies. So I just want...
Oh, there. I'm sorry about that. You can see that, yeah.
While all of this is about process, what does it mean? What are the outcomes we've had so far? And you can see there, we now have 35 local forums across the country, which is roughly one per 100,000 population. And they vary in degrees of autonomy. Some of them are better than others in terms of their ability to engage with local services because they may have had pre-existing skills which are relevant. We've produced, as you can see there, these two documents. It's a family carer and supporter guide, which is now available in all our services. And just, and I think it's important because if you know family members and a loved one comes in contact with the mental health services for the first time, possibly in an acute crisis, it's a very challenging and difficult time. So we've kind of telescoped the bigger book into a smaller credit card type that you can stick in your pocket, basically. And one which I didn't manage to bring with me, we now have a guide to our local forums, what they are, how they're run, who attends, and so forth. So this is a challenging slide. So how many of you recognize the one on the right? Say Charcot. How many of you recognize the lady on the left? Well, her name is there anyway. La Reine Victoria. And the reason I have those two images as a kind of a mnemonic is because, certainly in Ireland, and I suspect it's probably quite similar in France up to relatively recently, our model of care in the mental health services derives from the mid-19th century. So I think those two images capture it quite well. You'll notice that it's a young Queen Victoria, just shortly after she came to the throne in 1837. So from the mid-19th century onwards. But now it's about change, and that's the theme of this section of the conference. So what kind of change are we talking about? We're talking about change being challenging, and that was our colleague, the sociologist, spoke extensively about that. We're talking about change taking time. It doesn't happen overnight, particularly change of the magnitude of cultural change that I'm talking about. We're talking about evolution, not revolution. I know France has a history of revolutions, and we know from history as well that revolutions end up devouring their own. So it's about evolution, small changes which gather momentum and build support, not least amongst service providers who may feel challenged and defensive about some of these developments. The last three are quotes that were made to me at various presentations I've made since I took up this post. And one service user made the point that he had relaxed high expectations of all of this. So he had high expectations. He believed these changes would come and would be worthwhile, but he was relaxed about them because he felt they wouldn't happen overnight. The next one is fairly similar. Big wheels turn slowly, but they do turn. And finally, we'll know if all of this has worked. The proof of the pudding is in the eating. But at the end of the day, and its service users and their families will have to digest the pudding, what does it all mean? What does this mean for the service users in our mental health services and their family members, carers and supporters, as well as service providers? And I'm conscious there are a number of mental health professionals in the audience, and I don't know if you can pick up the subtlety in the cartoon on the right, but it's a doctor in the white coat, and he's saying, stressed, anxious, overworked, unable to sleep, still, enough of my problems, what can I do for you? So we have to be conscious, as I said, this is about a trialogue. It's about partnership between the three elements of care, the service user, his supporter, and the service provider. And if it isn't meaningful for all of those three constituencies, it won't work. And merci.
Merci beaucoup. On est très très en retard, et donc je vais te dire vraiment une question ou une remarque. Simplement, on va pas pouvoir débattre, mais pour qu'on puisse terminer la dernière session, je m'en excuse auprès des orateurs. Quelqu'un veut faire une remarque ? Il est tard. Donc on va manifestement, on va. Merci beaucoup. We are going to the next session.